stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. If I stay, it will be double. So you gotta let me know.
Bonjour, bienvenue à tous dans l'émission L'écho des jeunes.
Salut.
Bonjour à tous.
Alors, je vous dis qui il y a autour de la table aujourd'hui. Il y a Antoine Doirieux.
Bonjour Virginie.
Ouais.
Hippolyte Darbeau.
Le revenant.
Ouais.
Antoine Charrière.
Salut.
Et Simon, l'invité mystère.
Ouais.
L'invité mystère.
Invité mystère.
Nous vous proposons aujourd'hui dans l'écho des jeunes de parler des jeux. Alors, on va parler des jeux un peu dans tous les états, les jeux vidéo, les jeux de société, les jeux, quoi. Et donc, je vous propose de commencer avec Antoine Doirieux qui va nous parler des créateurs de jeux nivernais.
Alors, d'un créateur en particulier, qu'on connaît sûrement tous autour de la table, une légende du studio qu'on a déjà reçue une fois, c'est Cyril Berger.
Mais non.
Est-ce qu'on a encore besoin de le présenter? Non.
Non.
Mais
non.
Je vais quand même le faire, sinon j'aurais raison dans ma chronique.
Et il est très connu, mais pas assez quand même.
Oui, justement, on va encore présenter une de ses inventions. Donc on va présenter Cyril Berger pour les gens qui seraient passés à côté du monsieur et de ses différentes casquettes. C'est un illustrateur diplômé aux Arts Déco de Strasbourg qui a travaillé chez Ubisoft dans le jeu vidéo, du coup. Ah. Et il s'est ensuite reconverti au métier de professeur, mais il nourrit sa curiosité créative avec beaucoup de projets, comme la création d'albums jeunesse ou encore la création de jeux. Alors, nous allons voir les différents jeux que Cyril Berger a créé. Ouais. Alors je me suis appuyé pour faire ma chronique sur l'émission À quoi qu'on joue, sur Bac FM, où il avait été reçu. On devait normalement recevoir Cyril Berger, mais il y a eu des petits imprévus, donc je vais vous présenter les jeux qu'il a présentés dans À quoi qu'on joue,
d'accord,
l'émission que je vous invite à écouter. Donc son premier jeu dont on connaît à peu près le principe, c'est Brochette.
Moi je ne connais pas. Hein.
Non plus.
C'est un jeu éducatif d'addition. Donc ça c'est pour Antoine par exemple. dont le but est d'atteindre un chiffre donné. Par exemple, hop, tu lances, tu fais 36, et tu sais qu'un poivron ça vaut 3, un bout de bœuf ça vaut 10, et le but c'est le premier qui fait sa brochette à 36.
Ok. Mmh.
Mais pas très vegan comme jeu. Quand même.
Ouais,
c'est pas très. Sandrine Rousseau ne devrait pas apprécier ça.
Pas très EELV. Mais c'est un jeu qui est resté, d'après son interview, assez confidentiel. Hein. On le trouve nulle part, on peut pas y jouer pour l'instant. Par contre, il a développé un jeu avec la volonté de le publier, c'est la Joute.
Oui.
Ah oui, j'ai joué ça.
J'ai testé aussi ça. C'est un très bon jeu, c'est vachement sympa.
Moi, je connais pas.
C'est un jeu de plateau qui se joue. Alors, on peut pas dire un damier parce qu'il y a pas le même nombre de cases qu'un damier. Mais imaginez qu'on a des cases noires et blanches. Et donc, on a des pions et chacun a une fonction particulière. Est-ce que j'ai compris, c'est ça?
Ouais, ouais.
Mais alors, comment faisons-nous pour faire publier aujourd'hui notre jeu? Eh bien, on va à Cannes, au festival, et on monte les marches. Mais du festival du jeu, même si on ne doute pas qu'il serait tout à fait légitime de voir Monsieur Berger à côté de DiCaprio.
Ah oui, c'est vrai, ça c'est vrai.
Ouais. On confondrait les deux d'ailleurs.
Ah, oui, même physiquement, il y en a un qui est beaucoup plus beau que l'autre et c'est pas celui qui joue dans des films.
Non, c'est vrai.
C'est celui qui a créé la joute.
Exactement.
Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence dans le monde du jeu aujourd'hui. Alors, il s'est adapté et a créé un jeu jouable de 6 à la morge, mais parce que moi, ils mettent 6 à 99 ans sur les jeux, mais je comprends pas pourquoi. Moi, j'aimerais bien pouvoir continuer de jouer aux petits chevaux, même à 100 et 101 ans.
C'est un peu discriminant, mais je trouve, pour les centenaires.
Oui. Et il a adapté le jeu même pour les aveugles. On peut vraiment y jouer tous ensemble. C'est un jeu qui rassemble les jeunes, les personnes âgées, les valides, les aveugles. Et donc, il a mis toutes les chances de son côté pour se faire publier. Alors, à l'époque du podcast, c'était pas encore fait. Je sais pas où il en est aujourd'hui, mais en tout cas, on a hâte de le recevoir pour qu'il vienne nous parler peut-être un jour de la joute. Et dernièrement, il y a aussi un jeu dont je connais que le nom, pas réellement le principe, c'est le jeu de sexe-famille.
Eh bien, je pense qu'on peut laisser le mystère autour de ce jeu des sexe-famille et il viendra nous expliquer ce que c'est.
Oui.
Ce que je veux rajouter aussi, c'est Cyril Berger, il a fait aussi toute l'identité visuelle du jeu Crystal Globe, qui est un jeu de biathlon.
Oui.
De simulation de biathlon, créé aussi par Nivernais.
Il m'en a parlé, effectivement. Ouais.
Très bien. Eh bien, il faut absolument qu'ils viennent à Bac FM nous raconter tout ça. Merci beaucoup, Antoine.
Mais de rien, Virginie.
On poursuit l'émission, on fait une petite pause musicale.
On s'écoute un petit son. On va parler pas mal de jeux vidéo. Moi, quand on va parler de jeux vidéo et qu'on va proposer de mettre une chanson, je me suis dit, tiens, si on écoutait Video Games de Lana Del Rey.
Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you're the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, go play your video game. It's you, it's you, it's all for you, everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you, tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now. Singing in the old bars, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing, pulling wild darts, video games. He holds me in his big arms, drunk and I am seeing stars, this is all I think of. Watching all our friends fall in and out of old clothes, this is my idea of fun, playing video games. It's you, it's all for you, everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you, tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth living if somebody is loving you. Baby, now you do. It's you, it's all for you, everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you, tell me all the things you wanna do. Only worth living if somebody is loving you. Maybe now you do.
De retour sur BAC FM 106.1 dans l'émission L'écho des jeunes. Je vous propose de continuer notre émission sur les jeux avec Hippolyte Darbeau qui interviewe Antoine Charrière sur le jeu vidéo Zelda.
Et oui, parce que vous êtes habitué de voir Antoine Charrière, j'ai envie de dire, de l'autre côté du micro. C'est habituellement, vrai. C'est lui qui fait les chroniques, c'est lui qui pose des questions. Mais c'est un grand fan de Zelda, c'est un féru de ce jeu vidéo Nintendo. Alors moi, par contre, je suis un novice. Hein. Je n'ai jamais joué à n'importe quel Zelda. Je ne connais rien de ce jeu. J'ai quelques amis qui sont un peu gamers, qui connaissent un peu. Mais donc, je vais commencer par des questions vraiment triviales. Je pense que tu vas me prendre pour un imbécile.
Mais pas du
au
tout.
Moins, comme ça, aussi, nos auditeurs qui ne sont pas forcément non plus des initiés aux jeux vidéo pourront comprendre d'abord. Et après, on va vraiment parler en profondeur, notamment de ce tout dernier Zelda
tout
qui est sorti. Donc déjà, Zelda, c'est quoi ? C'est quoi ce jeu ? Ça joue sur quoi ? Ça consiste en quoi ?
Alors Zelda, à la base, alors c'est une licence de jeu, en fait. Le premier est sorti en 1986. Et alors en fait, c'est Nintendo qui fait ce jeu, donc c'est ceux aussi qui font Mario, toutes ces grosses licences. Et le papa de Mario est le même papa que Zelda. Et donc voilà, à une époque où le jeu tournait un peu en rond, ils ont décidé, Nintendo, de créer et Mario, et Zelda, et plein d'autres jeux. Mais ces deux-là ont vraiment eu un énorme succès. Mario, bon bah pour ce qu'on connaît, et Zelda, lui, c'était plutôt le côté exploration, récompense, notre exploration est récompensée, les énigmes aussi très iconiques, les donjons, etc., et tous les codes qu'on lui connaît. Et Zelda ensuite a beaucoup évolué, la licence d'ailleurs ça s'appelle The Legend of Zelda, et Zelda, je le tiens à préciser tout de suite, c'est le nom de la princesse et non oui, du personnage principal, du héros, oui. Puisque le nom du héros donc, que l'on incarne est Link, pour symboliser le lien entre le joueur et le jeu.
Ah, et, vraiment ?
Ouais, vraiment.
Ah, c'est incroyable, je savais pas du tout ça.
Et Zelda, ça vient de la fille d'un écrivain qui aimait beaucoup le créateur du jeu. Et donc, le but du jeu, c'est donc d'être le chevalier qui va sauver la princesse qui s'est fait capturer par un gros méchant monstre. Et donc, il faut explorer Hyrule, qui est donc le royaume du jeu. Et ensuite, à partir de 86, donc, les jeux vont se succéder. Il y aura en total, il y a beaucoup de débats sur combien il y a de jeux dans la série originale, mais il y en a entre 13 et 19, quoi. Mm-hmm. Sans compter certains spin-offs. Et à chaque fois, le principe est globalement même, sauf exception de certains jeux. On est le chevalier, on va sauver la princesse. Et la particularité de Zelda, c'est surtout qu'en fait, Nintendo arrive à chaque fois à donner une grosse leçon à toute l'industrie du jeu vidéo. À chaque sortie, il y a une innovation, il y a un petit truc qui fait que après tout le monde va s'inspirer de Zelda pour faire ses jeux d'aventure.
Par exemple, sur le dernier, quelle est la nouveauté apportée par rapport au précédent ?
Alors, le dernier est un peu particulier puisque c'est la suite de Breath of the Wild, qui est donc un jeu sorti en 2017. Et Breath of the Wild, lui, il cassait totalement les codes de l'open world, c'est-à-dire un monde où le joueur peut aller où il veut, quand il veut. Il a quelques quêtes, du coup, dont la quête principale, mais il peut faire ce qu'il veut dans l'ordre qu'il veut. Et en fait, l'open world, c'est un style de jeu qui commençait à tourner en rond dans les dernières années, puisque souvent, soit c'était trop linéaire, soit on nous disait vraiment d'aller un point A, un point B, et on nous faisait croire qu'on pouvait aller où on voulait, mais en fait, on était obligé d'y aller, soit on était trop restreint, etc. Et là, avec ce Zelda-là, Nintendo a complètement cassé les codes. Maintenant, on peut vraiment aller où on veut, quand on veut, faire ce qu'on veut, à tout moment. Il y a juste un petit tuto au début, et après, tout le jeu s'ouvre à nous. Mmh. Et sa suite, là, en fait, Breath of the Wild, donc, qui est sorti en 2017, Nintendo avait encore beaucoup d'idées à apporter dans ce monde-là. Des idées de gameplay, c'est-à-dire de style de jeu, etc. Et le dernier Zelda la casse encore plus les codes. Maintenant, en plus d'avoir un monde totalement grand et on peut aller où on veut, et maintenant on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut prendre des objets, les assembler, créer des machines. Maintenant, il y a même les sous-sols du royaume et le ciel. Donc, ils ont encore plus ouvert le monde, ils ont encore plus ouvert les possibilités. Là, le slogan qu'ils mettaient partout, c'était « Seule votre imagination est votre limite ». Et c'est vraiment le cas. Et c'est là la grosse révolution, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que beaucoup du coup s'inspirent maintenant de Zelda, et on voit déjà aujourd'hui des jeux qui s'inspirent déjà de celui-là, et donc, c'est une grosse innovation.
Et donc ce tout dernier, il a l'air d'apporter beaucoup de choses, beaucoup de nouveaux dans le monde de Zelda, dans l'histoire, je veux dire, de la licence Zelda. Il est au niveau des attentes, ce jeu ?
Alors oui, c'est un jeu qu'on attend depuis 6 ans, le dernier est sorti il y a 6 ans, et il a été officiellement annoncé il y a 4 ans, en grande pompe, à l'E3, qui est la plus grosse conférence de jeux vidéo. Et donc il y a eu beaucoup d'attentes, de théories, les fans l'attendaient beaucoup au tournant. Et moi en tant que joueur, je trouve que oui, le jeu est à la hauteur des attentes. Ouais. La plus grosse crainte des joueurs, c'était que en fait, ce jeu-là était sur la même carte que l'ancien jeu. Et donc c'est un monde ouvert, mais c'est un monde ouvert qu'on a déjà exploré. Ouais. Et en fait non, ils ont complètement pris le problème à l'inverse. Justement, c'est là où ce jeu est particulier. C'est qu'au lieu de, normalement tous les Zelda, on bat le boss final, sauf qu'ensuite on revient juste avant. Puisqu'on voit jamais ce qui se passe après qu'on ait battu le boss. Que maintenant on voit enfin ce qui s'est passé après. Le monde a évolué, les gens nous reconnaissent, on revoit des personnages qu'on connaît, d'autres qu'on connaît pas.
Et il se passe quoi du coup une fois qu'on a battu l'adversaire final
À la fin de celui-là ?
À la fin de celui-là.
Eh bien, je ne sais pas.
Ah oui, tu t'as
fait. Je n'ai pas encore fini. C'est un jeu tellement énorme.
Bah oui, gros. J'ai vu, il y a un Américain, je crois, qui a réussi à finir le jeu en moins d'une journée, quelque chose comme ça. Non
oui, bah alors ça, c'est les speedrunners, c'est une pratique qui se fait. Et oui, même avant la sortie du jeu, il y en avait déjà qui avaient des copies. Et quelqu'un l'avait déjà fini en 1h30. Mais c'est une autre pratique, c'est pas la même consommation, on va dire.
Et donc, si on devait comparer le Zelda qui est sorti cette année par rapport au tout premier. Tu me dirais quoi sur l'évolution de l'un à l'autre, en fait, si tu comparais juste les deux ?
Eh bah, au final, il y a beaucoup moins de changements, je trouve, entre le premier et celui-là, que entre le premier et un autre au milieu.
Okay.
Parce qu'en fait, Nintendo, faut savoir que le premier Zelda était déjà un open world. En fait, c'était un monde ouvert, on pouvait aller où on voulait.
Okay.
Juste, c'était en 2D, c'était en vue du dessus, c'était des pixels pas beaux. Mais sinon, en 2017, pour Breath of the Wild, ils ont repris le même principe, un open world, sauf que maintenant, c'est en 3D, et donc on peut faire beaucoup plus de choses, et le jeu a une durée de vie beaucoup plus longue. Et donc en fait l'évolution c'est ça, c'est maintenant on a mis le jeu en 3D et on a décuplé les possibilités à l'infini. Mais en fait Zelda a toujours voulu être ce jeu-là depuis le premier. et ils sont juste cherchés depuis toutes ces années en fait.
Et donc tu as énuméré là beaucoup de points communs, je pense que tu seras un excellent commercial pour Nintendo.
Sûrement.
Il a des défauts ce jeu, est-ce qu'il a des petits points négatifs, des reproches, des critiques?
Oui, moi en tout cas je lui en trouve certains, notamment du coup cette similarité avec Breath of the Wild dont on parlait. D'ailleurs ce jeu, je n'ai pas dit comment il s'appelait, il s'appelle Tears of the Kingdom. Et il est sorti, en mai dernier, le 12 mai dernier.
Les larmes du royaume en français.
Les larmes du royaume, tout à fait, qui ont une belle connotation quand on connaît l'histoire, mais ça il faut jouer au jeu évidemment puisque je ne spoilerai rien. Il y a quelques défauts, oui, parce que Nintendo a pris le risque inédit pour une fois pour un Zelda de reprendre exactement la même map, la même carte et le même Link, les mêmes personnages et le même gameplay. Ils ont mis des nouvelles mécaniques de gameplay, comme je disais on peut assembler des choses, mais les personnages sont les mêmes, on va au même endroit globalement. Donc comme défaut, moi je trouvais aussi que voilà, on a des personnages qui se ressemblent trop, je trouve qu'on a trop peu de nouveaux personnages au final. L'histoire aussi a beaucoup été critiquée, moi j'ai pas encore fini le jeu donc, mais c'est vrai qu'il y a quelques points de l'histoire qui sont notamment les donjons, où beaucoup redoutaient, voulaient un retour des donjons à la normale, des anciens Zelda, etc. Et Breath of the Wild a fait des donjons qui se ressemblaient beaucoup, avec des énigmes assez simples et très courts. Et là, ils ont gardé ce système de donjons-là, même si aujourd'hui, ils ont leur propre patte. Et voilà, il y a un peu trop de similarités, je pense, et beaucoup de fans auraient préféré un tout nouveau jeu. Mais c'est aussi un fantasme de fans de voir ce qui se passe après un jeu. Donc c'est bien que ce jeu existe, mais maintenant il faudra revenir à un format plus classique, on va dire, je pense, pour les joueurs et les fans ardus.
Et du coup, tous ces éléments-là, mis bout à bout, ça annonce quel avenir pour la licence et même en général pour l'industrie Nintendo?
Alors pour la licence, déjà je pense que beaucoup spéculaient sur une trilogie, enfin certains je veux dire, et... Sans spoiler, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y aura de trilogie. Là, ils ont conclu l'arc Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. Et maintenant, moi, je pense qu'ils vont partir... alors ça, c'est purement mon avis personnel. Du coup, j'ai rien du tout comme information. Ils vont partir sur un peu comme les Assassin's Creed, qui, eux, ont été des open world depuis le début. Mais qui, voilà, ils vont continuer à faire que des open world, je pense. Je vois mal Nintendo revenir à un schéma classique où il y a un Zelda assez linéaire, etc. Là, je pense qu'on va rester dans des open world, mais ils vont complètement changer de carte, changer de mode de voir le jeu vidéo, et ils vont encore plus innover, ça c'est sûr. Et alors, là on parle des jeux vidéo, mais c'est vrai que pour la licence en elle-même, si je peux faire un petit aparté, on diverge un petit peu.
Oh, vas-y, fais-toi plaisir.
Il y a le film Mario qui est sorti.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et le créateur de Zelda a dit lui-même qu'il voulait, pourquoi pas, faire un film Zelda. Donc voilà, c'est juste une petite info, on sait jamais, peut-être qu'un jour on verra un film sortir. Et en tout cas, ça annonce que du bon, là, le jeu a cassé tous les records, même de au lancement, etc.
Mais moi, j'en ai entendu parler, c'est dire.
Et voilà, donc en tout cas, ça annonce que du bon.
Très bien. Bah écoute, je vous propose de faire une petite pause, c'était une belle interview, comme ça on connaît un petit peu ce jeu.
Et allez jouer à ce jeu, il est incroyable.
Est-ce qu'on peut dire qu'on peut retrouver des quelques théories sur une chaîne YouTube d'un certain Tonino?
Tout à fait, Tonino la meringue, c'est un autre nom que je porte sur YouTube, sur Internet, et je fais des vidéos où je théorise sur Zelda, etc., et de nouvelles vidéos vont arriver sur Tears of the Kingdom, très certainement.
C'est de la vraie qualité, hein. Il est plus sérieux que là. Hein.
Oui, tout à fait, oui.
Je vous propose du coup de faire une petite coupure, une petite pause. Moi, j'ai voulu mettre une chanson un peu de jeux vidéo, chercher des chansons, quoi, des extraits du jeu de Zelda ou quoi. Et en fait, j'ai découvert un jeu qui est basé sur la musique. Je sais pas si vous connaissez My Singing Monsters. Non. Mais c'est un jeu avec du coup des petits monstres qui font la musique, etc. Et il faut les affronter. Et du coup, je vous propose d'écouter une chanson de ce jeu vidéo qui est vraiment excellente. Je trouve, enfin, je peux écouter ce son vraiment comme une chanson classique. Je vous invite à écouter Ember Island qui est tiré du coup de la bande originale de My Singing Monsters. We'll be right back.
retour dans l'écho des jeunes sur BAC FM 106.1. Je vous propose de poursuivre notre émission sur les jeux avec une chronique d'Antoine Charrière sur l'histoire du jeu.
Tout à fait, le thème de notre émission, donc c'est les jeux. Et donc moi je me suis penché sur, historiquement, à quoi jouaient par exemple les enfants à la préhistoire ou encore au Moyen-Âge. Alors c'est vraiment non exhaustif, hein. Je vais parler surtout de la préhistoire donc, et du Moyen-Âge, de ce que j'ai trouvé, et même un petit peu d'aujourd'hui, et donc des jeux à travers l'histoire. Donc on a tout d'abord l'archéologue Michèle Langlais, qui est une femme, de l'Australian Research Centre for Human Evolution.
Bon, bel accent, bah, ouais, voilà. Non, c'est un super accent.
Et qui affirme qu'en regardant quels jouets utilisaient les enfants des communautés de chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui, on peut identifier ceux utilisés par les enfants qui vécurent il y a des millions, des milliers d'années.
Ouais.
Ces jouets comprenaient généralement des poupées ou des figurines, des petites lances, des arcs, des flèches, de petites versions d'outils couramment utilisés par leurs parents et des figurines en terre. On a également constaté que les parents ou d'autres membres de la famille pouvaient passer de nombreuses heures à fabriquer de beaux jouets, souvent de valeur pour leurs enfants. Ça, ce sont les mots de l'archéologue. Et en fait, ils étaient comme nous, ils jouaient au Playmobil, juste que eux, c'était avec de la terre, quoi. Et d'ailleurs, les archéologues se demandent même si des figurines de la période paléolithique, découvertes lors des fouilles et présentées comme des œuvres d'art ou des objets religieux, ne seraient pas plutôt des jouets.
Ah.
On se pose la question aujourd'hui.
Et d'ailleurs, quand on se pose la question d'arrêter le plastique, c'est peut-être pas bête de revenir aux poupées en terre. Bref.
C'est vrai, pourquoi pas. Bon, alors passons au Moyen-Âge tout de suite, on zappe l'Antiquité. Au Moyen-Âge, les jeux sont nombreux et très répandus. Il y a notamment les jeux d'armes, de lancers, de billes, de boules, de balles, de hasard, et certains sont même directement hérités de l'Antiquité gréco-romaine. D'autres sont importés, comme les échecs originaires d'Asie. Et au XIVe siècle, les jeux de cartes suscitent un véritable engouement. C'était la grosse mode des cartes. Les jeux collectifs étaient partout en Europe, en France, etc. Le football en Angleterre. Et bon, en France, on avait le soul.
Ah oui.
Ah oui. Bon.
C'est le ou là ? Moi, j'aurais dit la soul.
Ce n'est pas noté dans mon fichier, mais on ira voir ça. Les jeux au Moyen-Âge étaient très appréciés, tant par le peuple que par le roi, alors que l'Église, elle, ne les voyait pas d'un très bon œil. L'aristocratie s'en servait aussi bien pour se divertir que pour éduquer les plus jeunes. Et alors, surtout, ce qu'elle détestait le plus, l'Église, c'était les jeux de hasard. Parce que pour elle, c'était une offense à Dieu. Considérés comme les œuvres du diable, les jeux de hasard sont régulièrement condamnés par les instances religieuses et politiques. Au VIe siècle, déjà, le code justinien interdit leur pratique dans les lieux publics et privés. Exception faite aux jeux sportifs, évidemment, puisque c'est pas du hasard. Étant qualifiés de délit, les jeux de hasard et d'argent étaient condamnés. Donc. Pour l'Église, le jeu symbolise la chute de la conscience humaine du temps qui passe, la fin de l'innocence originelle.
Bon, bah, tout ça.
Pas mal. Le jeu offense donc Dieu et contrevient au premier et troisième commandement en poussant à l'idolâtrie. Il favorise l'avarice, l'envie, la colère, la convoitise et constitue une perte de temps.
Oh là là.
Donc voilà, pas du tout apprécié de l'Église les jeux d'argent. Sachez que si vous jouez à des jeux d'argent, il faudra ensuite aller à l'Église, se confesser,
voilà.
Puisque vous avez fait une bêtise. Aujourd'hui, on joue à quoi, alors ?
Alors, on joue à quoi,
justement ? On joue à des jeux d'argent, on joue à des jeux de hasard, on joue à des jeux de société, des jeux vidéo.
Oui.
Eh bien, j'ai voulu voir, donc, les jeux de société préférés des Français, aujourd'hui. Ah. Et en premier, est-ce que vous savez ce que c'est ? Tu sais ce que c'est ?
Ah oui.
Puisqu'on en a déjà parlé.
Oui.
Et vous, spécialiste des jeux, alors, jeux de société préférés des Français ?
Eh ben, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont connus, il y en a beaucoup qui sont moins connus. Après, quels sont les préférés ? Je sais pas. Ça va dépendre des personnes. Ça va dépendre. Il y en a pour tous. Il n'y a pas de vraie réponse à cette question, en vrai.
C'est vrai. Alors, je pense honnêtement que d'ailleurs que ce sondage a été fait sur des vieilles personnes, puisque en premier, ce serait le Scrabble.
Bah,
en premier.
Pourquoi pas ?
Il y a peut-être des jeunes qui jouent au Scrabble aussi. Hein.
Oui, je suis pas sûr que c'est la première réponse
non,
qui vienne.
Ouais.
On a ensuite le Trivial Pursuit et le Monopoly,
ouais, le Monopoly.
Qui traverse les âges.
Je trouve aussi. Ouais.
Et ensuite, dans les jeux plus généralement, pas que jeux de société, on a le flipper qui arrive en premier avec le babyfoot. On a aussi le bowling en deuxième position et le jeu d'échecs qui arrive en troisième position.
Ouais.
Voilà à quoi on joue aujourd'hui, à quoi on jouait à la préhistoire et à quoi on jouait au Moyen-Âge.
Eh bien, merci beaucoup Antoine. Et j'ai la réponse, c'est-à-dire que la soule, S-O-U-L-E, c'est l'ancêtre du rugby.
Eh bien, c'était totalement la mode au Moyen-Âge.
Très bien. Merci Antoine pour cette chronique. Je vous propose d'enchaîner avec Erwan et Camille. On a entendu la voix d'Erwan tout à l'heure pour parler de ludique and ludique, mais pas que, pour parler jeu, puisque du coup vous êtes des joueurs. Donc merci d'être sur Bac FM.
Merci pour l'invitation.
Vous avez ouvert en début d'année ludique and ludique, donc qui est un bar à jeux. Est-ce que l'un ou l'autre, vous pouvez nous rappeler ce que c'est que le concept d'un bar à jeux ?
Alors, c'est avant tout un bar dans lequel on va trouver des jeux de société. Pour nous, c'est plus que ça. C'est partager vraiment notre passion du jeu et faire découvrir les jeux au plus grand nombre. Donc, c'est trouver le meilleur jeu qui convient à chacun et puis pouvoir l'expliquer, expliquer ses règles et le faire jouer un maximum de jeux, un maximum de personnes.
Et quand on ouvre un bar à jeux, est-ce qu'on est joueur ou joueuse ?
Bah, pas forcément, mais bon, c'est quand même mieux d'être joueur déjà avant. Ça facilite l'échange, ça facilite la connaissance. Et puis, mine de rien, quand on doit proposer 200, 300 jeux et qu'on les connaît pas, c'est quand même un petit peu dommage. Donc, c'est mieux d'être joueur quand même.
Donc, vous deux, vous êtes joueurs depuis longtemps ?
Oui, bah depuis...
En vrai, depuis pas si longtemps que...
Chacun de notre côté, si, mais on a commencé à énormément jouer, vraiment tous les deux, quand on s'est rencontrés en fait.
Et du coup, quels sont, pour remonter un peu plus loin que ces 10 dernières années, vos jeux d'enfance qui vous auraient donné envie de jouer, vous en souvenez ou là, comme vous venez de le dire, c'est plutôt très récent et du coup, il n'y a pas forcément de jeux d'enfance.
Moi, il n'y avait pas beaucoup de jeux, c'était surtout les livres chez moi. Ouais. Mais moi, j'adore jouer depuis vraiment toute petite et je tannais ma sœur et mes parents pour jouer. Et les jeux de l'enfance, ça va être les jeux ultra connus que tout le monde a, les mystères de Pékin, Cluedo, voilà, des choses comme ça, Shopping Follies, c'était top.
Ok, et toi Erwan ?
Et moi, c'était plutôt, il y avait le Milbord, je me rappelle, on a énormément joué, le Triomino aussi. Mm-hmm. Et avec mes grands-parents, on avait beaucoup joué au tarot, au rami, au nain jaune, des jeux de cartes de ce style-là.
Des jeux de cartes, ça marche toujours quand
on
est
petit. C'est sûr. Oui.
Et aujourd'hui, alors vous êtes joueur, vous arrivez à combiner, tenir un bar à jeu et jouer. Vous arrivez encore à prendre du temps pour ça ou est-ce que du coup vous le faites moins qu'avant ?
On le fait un petit peu moins, je pense, mais on essaye de se prendre du temps quand même pour continuer, ne serait-ce que la veille sur les jeux. Et puis, moi, ce que je préfère, c'est découvrir de nouveaux jeux. Donc, en soi, ouvrir des boîtes, lire des règles et tester des nouveaux jeux, ouais, c'est...
Alors moi, pour avoir testé, pour être allé à Ludique et à Ludique, c'est vrai que c'est absolument merveilleux d'avoir quelqu'un qui connaît les règles du jeu. Moi qui déteste lire les règles d'un jeu, donc c'est vraiment appréciable. Du coup, qu'est-ce que vous apporte le jeu ? Enfin, quand vous jouiez plus, même encore aujourd'hui, mais c'est un peu intime comme question, mais qu'est-ce que ça vous apporte ?
Pour moi, c'est quand même un petit peu comme un livre, c'est-à-dire qu'on entre dans un univers qui a ses codes, qui a ses règles, qui a sa manière de fonctionner. Tout n'est pas dit, tout n'est pas écrit. Donc, comme dans un livre, il faut imaginer des choses. Il y a des choses qui vont plus loin que juste l'illustration qu'il y a sur une carte ou la petite phrase narrative qui explique telle ou telle chose. Des fois, c'est vraiment tout un monde qui s'ouvre. Et autant dans un livre, on a quelque chose qui est scripté et sur lequel on n'a pas prise, autant dans un jeu, on fait un petit peu ce qu'on veut, donc il y a une certaine liberté. Toujours dans les règles, mais c'est un monde dans lequel on entre et dans lequel on peut faire des choses. Et si on les fait bien, on est récompensé, s'il y a un petit côté satisfaisant en même temps.
Ok.
Pour moi, ça va plus être le lien social, vraiment. Moi, j'adore jouer à des jeux. Alors, il y a des sites en ligne où on peut jouer aussi. Donc, ça a été très pratique pendant le confinement. Et puis, ça permet de découvrir des nouveaux jeux aussi sans forcément avoir à les acheter. Mais moi, ce que je préfère quand même, c'est revenir à jouer autour d'une table avec des gens. Pour moi, dans le jeu, on peut rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées d'autres endroits, discuter avec des gens qu'on n'aurait peut-être pas côtoyés forcément parce qu'on n'est pas du même univers, on n'a pas les mêmes passions, les mêmes lieux de fréquentation. Et le jeu, je trouve, rassemble vraiment à la fois différentes générations, mais différents milieux sociaux aussi. Et ça, pour moi, c'est important.
Et du coup, qu'est-ce que révèle le jeu pour toi ? On se révèle un peu quand on joue ?
Oui, c'est sûr. Après, ça dépend des jeux parce que moi, il y a des jeux, je ne suis pas forcément pareil dans des jeux que dans la vraie vie. C'est-à-dire, par exemple, quand je joue à un jeu de traître, je peux être ultra manipulatrice, te regarder droit dans les yeux et mentir, alors que dans la vie, pas du tout, quoi. Je le verrai tout de suite.
Ah bon ?
Et ne l'écoutez pas.
Mais c'est pour ça que c'est bien de jouer, pour le coup.
Oui,
de pouvoir être d'autres... D'autres personnages.
Oui.
Ouais, ok.
C'est un peu comparable aussi avec le théâtre. Je fais du théâtre à côté et du coup, j'aime bien faire le lien entre les deux. Je trouve que ça se ressemble.
On se met un peu en scène, ouais.
Ouais.
Et du coup, est-ce que vous êtes bon ou mauvais joueur ? Erwan, t'es bon ou mauvais joueur ?
Non, plutôt bon joueur, ça va. Généralement, l'essentiel, c'est de faire des jolis coups dans une partie, même si on perd. Enfin, moi, en tout cas, je m'en fiche un petit peu du moment que la partie, il y a des choses intéressantes qui se sont passées, c'est bien.
Camille, bonne
moi, je suis bonne gagnante.
Ok, ça veut tout dire.
Non, quand je perds un jeu, j'aime plus, enfin, ce que je préfère, c'est me dire, ah, on en refait une, parce que j'ai envie de tester autre chose. J'ai vu que quelqu'un avait fait une autre stratégie et je me suis dit, mais c'est super ce qu'il a fait, moi aussi je veux faire pareil. Et du coup, ça me donne juste envie de rejouer, en fait. Donc, bon, ça
c'est
va chouette. Quand même.
Non, mais c'est bien. Pour des gens qui tiennent à barre à jeu, c'est bien.
Ouais.
J'ai vu là récemment que vous aviez mis des jeux dehors Place Guy Coquille. Donc, vous êtes Place Guy Coquille. C'est quoi comme style de jeu?
C'est des jeux de plein air, donc ça va être le jeu de palais, qui est assez connu pour le coup. Donc nous, c'est pas un palais breton, c'est un palais vendéen, donc ça joue sur une plus petite surface. Donc comme ça, ça nous permet de pas de prendre non plus trop de place sur la place. Et puis, on a mis un autre jeu aussi là en ce moment qui s'appelle le Biboc. Vous avez un jeu en fait avec des palais qui vont être de couleur rouge ou bleu. Et vous devez les lancer, c'est un peu le même principe qu'à la pétanque, il faut se rapprocher le plus d'un cochonnet, sauf que si le palais arrive sur l'autre couleur quand il tombe, eh ben, le point va à l'autre équipe. Donc,
okay. Voilà. Bon, bah, alors il faut qu'on incite les auditeurs à aller essayer.
Ouais, on en mettra d'autres, après là c'est vraiment que le début, on voit un petit peu comment ça prend, mais on aura certainement peut-être un Molky ou d'autres jeux plus connus ou moins connus, mais qui se font en extérieur, c'est quand même sympa.
Puis c'est des jeux sympas, même s'ils sont connus, ils sont bien sympas.
Oui.
Ok, et donc vous organisez aussi des soirées, donc des soirées TTMC, tu te mets combien, Burger Quiz, enfin il y a eu plusieurs autres soirées. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, comment s'organisent ces jeux-là, et puis du coup, est-ce qu'il y a d'autres soirées qui sont prévues?
Oui, alors on a plusieurs quiz différents qu'on a fait et qu'on va faire. On a fait aussi un quiz Harry Potter. Et puis, il va y avoir d'autres quiz, certainement aussi. Après, sur les quiz, c'est pas forcément à la rapidité. Ça peut changer un peu. Des fois, ça peut être équipe par équipe. Voilà.
Donc, en fait, l'organisation, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des équipes, on s'inscrit.
C'est ça.
Et le jour J, en fait, c'est toi, Camille, qui es maître du jeu.
Oui.
Voilà.
C'est ça, okay. Je pose les questions, j'anime le jeu, et voilà, après on peut même s'inscrire tout seul, on a des équipes qui se font, des personnes qui se rajoutent à d'autres équipes, et c'est justement le principe du bar aussi, de pouvoir rencontrer des nouveaux joueurs, donc même si vous êtes tout seul, si vous voulez vous inscrire, on peut faire une équipe de personnes qui ne se connaissent pas, ça pose pas de problème, et voilà, après on essaie d'accueillir 4 ou 5 équipes de 4 ou 5 personnes en fonction... Après, si vous êtes moins, vous pouvez aussi vous inscrire qu'à 2 et puis pareil, rejoindre une autre équipe de 2. Enfin, voilà. On essaye d'adapter. N'hésitez pas à nous envoyer des messages pour nous demander si vous avez envie.
Et du coup, elles ont marché ces soirées? Il y avait du monde?
Oui, il y avait du monde, ouais. Enfin,
pour en avoir fait 2, j'ai trouvé ça très
sympa. Le quiz Harry Potter, il y avait des gros fans qui avaient des réponses à des questions.
Ah ouais, c'était incroyable. C'était incroyable.
J'ai vu qu'il y en a un sur Star Wars, non, aussi?
Il y en a un sur Star Wars.
Là, on attire les fans, sortir, là, clairement.
Ouais, le 21 juin, ouais.
Ok. Bon, de toute façon, on vous retrouve sur votre page Facebook, on retrouve tout le programme, je pense.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Et après, au niveau des soirées, on fait plein d'autres choses aussi. On fait des tables ouvertes, justement, qui sont des soirées spécifiques pour rencontrer des nouveaux joueurs. On a fait une soirée spéciale Loup-Garou, c'est un jeu qui est assez connu, donc voilà. Et puis, on va faire des soirées initiation de jeux, des soirées présentation. On a l'association Les Gobelins Déchaînés qui sont venus, qui ont présenté le jeu de figurines.
Star Wars Légion.
Voilà. Mmh. Ils vont revenir aussi faire de l'initiation à peinture sur figurines. On va avoir l'association de jeux de Go qui va passer aussi. Voilà, on essaye de faire pas mal de petites choses sur toutes les semaines. Là, on a un bon programme pour cette été qui est déjà établi, donc voilà.
Super.
N'hésitez pas à regarder sur nos réseaux pour avoir plus d'infos sur les dates et tout.
Oui, c'est ça, vous êtes sur Insta aussi.
Ouais, ouais. Facebook et Instagram.
Ouais. Non, mais ça donne très envie. Et du coup, j'ai vu d'ailleurs sur les réseaux que vous aviez des nouveautés, vous en avez régulièrement des nouveaux jeux, enfin, c'est une volonté aussi, parce qu'il y en a combien là, des jeux? Vous en avez
là,
déjà pas mal.
On a refait le compte, on en a 420 et quelques. Ouais. Voilà,
et d'autres qui arrivent.
Et d'autres qui arrivent, ouais, qui vont venir régulièrement, parce que ben, toutes les semaines, il y a entre 10 et 30 jeux qui sortent toutes les semaines.
Ok.
Donc, on les
c'est
aura pas
énorme.
Tous, clairement. impossible de jouer à tout également, mais ouais, c'est quand même important d'avoir des nouveautés, d'avoir y a des choses qui sont intéressantes, qui sont novatrices qui sortent, qui viennent compléter, qui sont vraiment intéressantes. Et nous, on adore justement avoir toutes ces nouveautés et les tester. Donc, on en aura régulièrement. Quand on aura plus de place, on fera sortir des jeux qui ne sortent pas pour le coup. Mm-hmm. On les enlèvera pour faire de la place aux petits nouveaux.
Ok. Et donc, pour terminer cette interview, quel est votre jeu du moment préféré ou le jeu du monde préféré? Comme vous voulez, mais quel est votre jeu préféré, Erwan?
Le jeu du moment, bah, on a fait quelques parties récemment, c'est un gros jeu avec des grosses règles qui durent bien 2, 3, 4 heures, qui s'appelle Route, où bon, en gros c'est du duel de territoire, de la lutte pour du territoire, un petit peu à la Risque, mais en beaucoup plus intéressant pour le
D'accord.
coup. Voilà, ça c'est vraiment un jeu qui sort souvent en ce moment, et on fait des soirées dédiées avec les amis, enfin voilà, c'est top.
Ok, Camille ?
Moi, ce week-end, j'ai découvert deux petits nouveaux jeux. Il y en a un qui s'appelle Scoot, qui est un jeu qui ressemble un petit peu à un jeu qu'on a déjà au bar qui s'appelle Carreau Combo, mais qui est plus fluide et plus sympa, et etc. Donc, on va essayer de se le procurer. Et un autre jeu qui est plus ancien, qui est sorti en 2011, qui s'appelle Crazy Kick, où en fait, vous êtes deux équipes de football. Il y en a une qui a une carte blanche, l'autre des cartes rouges. Et du coup, vous devez appeler vos joueurs. Donc, c'est la frénésie autour de la table. On se prend pour des commentateurs sportifs. Et Alex qui fait la passe à Chris, qui fait la passe à Paul, et but, etc. Donc, ça marche très, très bien. Et on a envie d'enchaîner les parties. Donc, on essaiera de l'avoir. Mais comme il est sorti il y a longtemps, je ne pense plus qu'il soit édité. Ah. Donc, on va essayer de vous le trouver.
OK. Et ben, super. En tout cas, merci beaucoup. Moi, pour avoir été à Ludic & Ludic, je le conseille aux auditeurs qu'on est, je sais pas, j'allais dire 5-6 ans, il y a des jeux jusqu'à...
Jusqu'à tout, on a vraiment de quoi s'adapter à tous les publics.
Tous les âges.
Tous les publics, toutes les configurations, tous les âges.
Et puis un petit mot aussi sur l'ambiance, je trouve que l'ambiance est vraiment sympa parce que c'est un endroit chaleureux.
Merci.
Et puis vous, vous êtes adorable aussi, vous nous recevez bien, il y a des bons cocktails. Enfin bref, on passe toujours un bon moment à Ludic & Ludic. En tout cas, merci d'être venu au micro de Beck FM. Et puis à très vite à Ludic & Ludic.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Merci beaucoup Camille, Erwan et Virginie pour cette belle interview. Et je tiens à préciser qu'à Ludic & Ludic, il y a de très très bons cookies également à manger en juin. Donc je vous recommande fortement. Et on revient un peu sur les jeux vidéo avec Tenacious D, Video Games.
Pause musicale.
Are you plugged in?
Yeah.
All right, ready? 1, 2, 1, 2, 3. I don't play video games no more. I never play video games. Except for a little bit of God of War. I never play video games. Maybe once in a while, a little bit of Fallout 4. But that's okay, not right now. I got things to do. Cause I don't play video games no more. Never play video games. But Red Dead Redemption 2, that is not a game. It's an incredible journey through old American history. Fighting for your life and fighting for your family. Try to live your days with honor and integrity. That's not a game. That's an adult thing. That's not a game at all. That's like fucking Shakespeare. Freaky. That's it. That's the one. It's on the album.
Rebonjour ou bonjour à tous, pour ceux qui n'étaient peut-être pas là avant. On est sur Back FM, sur l'écho des jeunes. On vient d'écouter Video Games de Tenacious D. Pourquoi ? Parce qu'on parle des jeux aujourd'hui. Mais pas que des jeux vidéo, hein, évidemment. Parce qu'on avait notamment Camille et Erwan qui viennent de la Ludic & Ludic, qui nous ont parlé de différents types d'autres jeux. Mais on a aussi Simon, qui est notre invité mystère, qui nous vient tout droit de la Haute-Marne, et qui est un invité mystère de passage à Nevers, qui peut nous parler aussi des jeux qu'il propose des fois sur le campus. Parce que c'est un copain de mon université qui est sur le même campus que moi.
Et
il travaille pour l'association sportive. Et du coup, tu aurais peut-être des petits trucs à nous parler, non ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est l'été, c'est aussi l'occasion de redécouvrir un petit peu des pratiques sportives, de s'amuser autrement aussi.
D'aller à la piscine ?
Parfois, d'aller à la piscine, entre autres, de s'amuser, voilà, en faisant du sport. Ouais. Et le problème des piscines l'été, de plus en plus, hein, chaque année, il n'y a plus forcément beaucoup d'eau. Donc voilà, ouais. Vous n'allez pas forcément pouvoir remplir vos piscines cet été. Alors je vous propose notamment par exemple de prendre vos frites et de jouer à l'escrime avec des frites de piscine sans se frapper très fort. Attention, il faut faire attention, il y a des règles.
Oui.
C'est une très bonne pratique et c'est très drôle, surtout pour déchaîner vos enfants quand vous voulez siroter une petite pina colada sur le bord de la piscine vide.
Il a fait ça sur le campus, hein, il a organisé des matchs d'escrime sur le campus.
C'est pas mal, c'est super sympathique.
C'est sympa, hein.
Et ça défoule vraiment. Et puis s'il tape un petit peu trop fort, vous prenez des bouées pour les ligoter. autre idée, voilà, les slackline aussi pour l'été, ouais. les élastiques tendus entre les arbres, ouais. Super idée pour s'amuser entre amis. Et pour,
c'est incroyable, ça aspire les jeunes, hein. Ils se mettent tous dessus. Puis les jeunes, on marche dessus aussi. Ouais. Mais bon, Simon, tu nous as recommandé tes jeux. Peut-être qu'on aura tous aussi des petits jeux.
Oui, alors voilà, ça c'est des recommandations de jeux d'extérieur. Merci Simon. Alors il y a peut-être des jeux aussi d'extérieur, mais est-ce qu'on peut faire une petite recommandation à nos auditeurs pour jouer cet été ?
Allez, allons-y.
Antoine.
Vas-y Antoine.
Virginie, tu commences, je t'en prie.
Alors moi, j'adore ce jeu. C'est pas que cet été, c'est le 6 qui prend. c'est un jeu de cartes. Et bah, si vous voulez le tester, allez à Ludic & Ludic. C'est un jeu assez simple qu'on peut jouer vraiment avec des petits, des grands, des moyens. Voilà, le 6 qui prend.
Moi, si j'avais un jeu aussi à recommander, c'est un jeu de cartes aussi. Vous prenez un paquet de 52 cartes classiques. Ça s'appelle le Mao. Et la seule règle du Mao, c'est qu'on ne pose pas de questions à propos des règles. Et oui. Et en fait, ça veut dire que normalement, je crois qu'il y a plus ou moins des règles prédéfinies, mais on n'est pas obligé vraiment de jouer avec. Aussi, chaque joueur peut définir, choisir chacun une règle. Et on part comme ça. Et en fait, personne ne dit de façon explicite les règles. On doit essayer de les deviner à force de prendre des pénalités. Alors, il y a une mécanique de jeu classique qui est on joue comme si c'était un Uno. En fait, on doit poser, on doit se débarrasser de tout son jeu de cartes en posant soit la même, une carte d'une même valeur ou de la même couleur. Mais après, il y a plein d'autres règles qui se rajoutent, dire un certain mot quand on pose un certain type de carte, etc.
C'est un jeu d'intellectuel.
Exactement, c'est très compliqué. Hein, c'est très amusant, surtout ce qui est très amusant, c'est d'envoyer plein de cartes à ses copains quand ils ne respectent pas les règles qu'ils ne connaissent pas, vu qu'on n'a pas dit quelle était la règle. Et en fait, les gens connaissent la règle qu'une fois que la personne qui l'a inventée l'applique. Et du coup, après, c'est un jeu aussi d'observation. Et je trouve ça très, très amusant et très rigolo, surtout quand on inflige des pénalités.
Ne entre... jouez pas au Mao avec Hippolyte.
Non,
surtout pas avec Camoulox et Sloubi un peu.
Un peu.
Moi, j'ai un petit jeu pas connu qui est sorti le 12 mai dernier qui s'appelle Zelda. Donc.
Oh. On en a déjà parlé, je crois, Antoine.
On en a déjà parlé.
Non, nous parler de OVNI.
Moi, comme j'ai... Non, moi, comme j'étais dans le jeu vidéo, je peux peut-être un peu parler de jeu vidéo vite fait. À quoi on joue cet été. Il y a Diablo 4 qui est sorti pour ceux qui veulent se défouler sur des démons il n'y a pas longtemps sur PC, Xbox et PlayStation. Okay. Niveau mignon, en fin juillet, il y a Pikmin 4 qui sort sur Nintendo Switch. C'est dans l'espace, c'est tout mignon, c'est une ambiance particulière. Et puis pour les fans d'Harry Potter, mais ça c'est sorti depuis assez longtemps et ça va sortir bientôt sur Nintendo Switch, mais c'est déjà sur PC et toutes les autres consoles, Hogwarts Legacy.
Okay.
Voilà pour les curieux qui cherchaient un jeu à faire cet été.
Et toi Antoine?
Je conseille Hogwarts Legacy pour l'été, c'est une bonne recommandation. Moi je vais vous proposer deux jeux rapidement. Cet été j'ai décidé de commencer à jouer aux échecs.
Ah oui.
Pour sortir du grand échec qui est ma vie pour l'instant, pour me faire réfléchir un peu. Donc apprendre à jouer aux échecs cet été, bon, je sais jouer, mais entre connaître les règles et savoir jouer aux échecs, il y a un grand pont.
Est-ce que tu vas te mettre au chessboxing?
Ah oui,
c'est intéressant ça.
C'est les échecs et la boxe.
Inventé par Enki Bilal,
ouais.
Très simple.
Non, ça ira. Okay. Sinon, j'ai un autre jeu à vous présenter.
Juste pour ça, il y a un documentaire sur Canal si vous voulez aller voir. C'est de la boxe et des échecs. Et c'est très bien fait.
Ouais, super. C'est très chouette.
Et c'est très bien.
L'autre jeu que je vous propose, c'est Rhapsody. C'est un jeu sur mobile. Et en fait, le principe, c'est qu'on est un directeur de label et on signe nos artistes. Et il y a vraiment tous les artistes rap, les artistes préférés de Virginie.
Par exemple,
Je sais que Virginie adore NTM, par exemple.
Ah, voilà.
Grande fan de NTM, Virginie. Oui. Et bien, sur Rhapsody, on peut aller signer NTM. Et le but avec des labels, c'est de regarder les courbes de tes rappeurs pour gagner en pourcentage sur la... C'est vraiment une vraie gestion de label.
Est-ce que sur ce jeu-là, on est meilleur quand on est bohème? Pour faire Bohemian Rhapsody. Allez.
Et ben on va terminer sur cette bonne blague d'Hippolyte.
Attends, il y a peut-être Simon qui a une recommandation pour nous. Simon, t'as fait un petit jeu de société, un jeu vidéo, non?
Bah il a fait ses recommandations.
Ah, il a fait ses recommandations, c'est vrai, c'est vrai.
Se taper avec des frites.
Ouais, se taper avec des frites,
c'est efficace. Ça invite à la joie, à la bonne humeur.
C'est ça.
Pas au restaurant, attention.
Merci à tous, merci à l'équipe de l'Écho des Jeunes de ce jour.
Merci
à Laetitia qui est derrière les platines et
qui a tenu un bon moment.
Exactement.
C'était long et facile.
Merci à tous. Rendez-vous le mois prochain.
Ouais, le mois prochain. Should I stay or should I go now? We don't want to stop. If I go there will be trouble. If I stay it will be double. So you gotta